France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, en direct, jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, et en particulier aujourd'hui, sur la commission parlementaire qui s'est penchée cette semaine sur les effets psychologiques de la plateforme sur les mineurs, TikTok. Et puis, pour le débat, nous tenterons de prendre la mesure de la situation au Moyen-Orient, l'escalade de la conflictualité entre Israël et l'Iran. Jusqu'où ira-t-elle? Depuis Tel Aviv, nous serons avec le professeur de sciences politiques à l'Open University of Israel, Denis Charbit, et en studio avec l'historien spécialiste des relations internationales, membre de la rédaction du Grand Continent, Florian Louis. Mais pour l'heure, place au duel.
Le Grand Face-à-Face, Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour, bonjour Thomas.
Allez, on commence avec un premier thème français. Les conclusions du conclave sur les retraites n'ont pas été rendues, toujours pas, c'est cette semaine, dans quelques jours. Et déjà, une solution monte fort à droite, y compris au sein du bloc gouvernemental, la retraite par capitalisation. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a pris position clairement en faveur, c'était mercredi.
La capitalisation, sans être un système généralisé, fait désormais partie du quotidien de nos concitoyens. Alors elle peut être individuelle ou collective, elle peut être obligatoire ou non, vous avez compris que le débat était large, mais ses avantages sont connus. Alors à terme, la capitalisation permet sans doute de protéger bien mieux le pouvoir d'achat que des cotisations qui augmentent pour financer des retraites de leurs aînés. Et donc permettre une capitalisation démocratique, populaire, nous permet de réduire les inégalités sociales.
Une capitalisation démocratique populaire, dit Gérald Darmanin. Gilles, est-ce que un tabou est en train d'exploser en France autour de la retraite par capitalisation?
Quand on observe le débat public depuis quelques mois, on a presque l'impression que de tabou, c'est devenu un totem. Et qu'en réalité, point de passage obligé, ouais. Il faut aujourd'hui être favorable à la capitalisation sans aller tellement plus loin dans quel type de capitalisation et surtout pour quel objectif. Et je dois dire ma circonspection à la fois sur le moment, vous l'avez dit, on est en plein conclave sur les retraites et je trouve que ça témoigne quand même d'un assez faible respect pour le dialogue social que de transférer le débat sur un autre sujet au moment où ce conclave est en train de s'achever, puisque la dernière séance doit avoir lieu en début de semaine prochaine,
mardi,
avec des questions qui concernent des millions de Français, qui sont des questions très lourdes, qui sont en cours de négociation, parce que il y a eu des avancées sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment sur les trimestres de maternité. Il y a des discussions qui ont un peu avancé, mais pas beaucoup, sur les questions de pénibilité, et évidemment rien n'a bougé sur la question de l'âge, et donc la question de savoir s'il va y avoir un accord, je crois, est encore une question posée, et si accord il y a, la question qui est derrière, c'est est-ce que cet accord peut être transposé législativement, puisqu'il faut que ça s'intègre dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, au moment où on parle d'une année blanche, et donc ce n'est pas si évident que ça. Au lieu et place de ce débat-là, a ressurgi le vieux débat sur la capitalisation. On peut avoir un débat de manière théorique sur les avantages comparatifs du système de répartition et du système par capitalisation. Mais nous avons un système par répartition. Ça veut dire que nous avons fait le choix, il y a maintenant des décennies, que les actifs financent les retraités d'aujourd'hui et ne financent pas leur propre retraite de demain. À partir de là, si on a la discussion de manière concrète, il est impossible de passer d'un système à un autre, sauf à ce qu'on cotise deux fois, ce qui est évidemment inenvisageable. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut avoir, non pas un changement de système,
une hybridation.
Voilà, une hybridation, en tout
cas. Qui existe déjà, d'ailleurs, pour pas mal de nos concitoyens, qui ont une partie de leur retraite par capitalisation.
Alors, vous avez raison, il y a en gros 15% de Français qui ont d'une manière ou d'une autre un système de capitalisation. D'une certaine manière, on pourrait même c'est pas de la retraite par capitalisation, mais quand vous avez 75% des retraités qui sont propriétaires de leur logement, ça ressemble beaucoup à de la capitalisation, c'est-à-dire on essaye de compléter et de s'assurer un certain niveau de retraite. Et donc il y a en fait une seule question qui est posée, je crois, même dans cette version, disons, minimaliste d'un ajout de 5, 10, 15% de capitalisation, c'est qui paye ? Et Édouard Philippe, en fait, qui a fait la proposition la plus aboutie dans son essai cette semaine, dit qu'il faudrait qu'une partie des cotisations patronales vienne abonder la capitalisation. Si c'est ça, je crois que c'est vraiment dangereux parce que cette capitalisation, elle se fait au détriment du système par répartition.
En tout cas, au sein du gouvernement, ça frotte. C'est pas le seul sujet, hein, mais ça frotte. Le ministre de l'économie, Éric Lombardi, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le bon moment. Le ministre de l'Industrie, lui, Marc Ferracci, est plutôt favorable à la piste de la capitalisation. Natacha, qu'en pensez ?
Je vais poursuivre la réflexion de Gilles avec, en premier point, pourquoi faire ? Et en effet, je pense que si la réflexion consiste à dire « nous avons besoin d'orienter une partie de l'épargne vers le soutien à l'industrie française, vers une réindustrialisation du pays et une part de capitalisation pourrait permettre ça. »
C'est ce que propose Marc Ferracci.
Voilà, en allant jusqu'à des fonds de pension à la française, à l'européenne. Là, il y a une réflexion qui peut être intéressante. Donc le pourquoi nécessite de ne pas être totalement bloqué. En revanche, la question du comment, là aussi je prolonge ce que disait Gilles, je suis absolument effaré de voir des gens, notamment à droite et au centre, qui expliquent qu'on va passer donc à 10, 15, 20%, on n'explique pas comment, de capitalisation, avec un tabou. Le tabou, c'est plus la capitalisation. Le tabou, c'est en effet de faire participer ceux qui actuellement sont retraités et bénéficient du fait qu'ils ont un taux de remplacement qui est tout à fait favorable. C'est-à-dire qu'en gros, actuellement, les gens qui sont à la retraite, en particulier les plus favorisés, bien sûr, on touche 2 euros pour 1 euro cotisé. Et là, donc, ce qu'on nous explique, c'est que des gens qui, eux, risquent de toucher moins d'un euro pour 1 euro cotisé, ben, on va en prendre un petit peu et les mettre pour capitaliser. C'est une absurdité, alors que nous voyons tous que le drame de la France aujourd'hui, c'est que le travail ne paye pas suffisamment. Donc, pourquoi pas réfléchir à une part de capitalisation, mais il faut réfléchir à la manière dont on finance cela. C'est pour ça que de toute façon, si ça se faisait un jour, ça se ferait sur un très 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 long terme.
Gilles, un mot ?
Juste une phrase. Il y avait, sur le comment, il y avait un très bon système qui avait été imaginé au début, mis en place au début des années 2000, qui était un fonds de la capitalisation à la française, de manière collective, qui était le fonds de réserve qu'avait mis en place Lionel Jospin. S'il avait été pendant 25 ans abondé comme il aurait dû l'être, on serait dans une situation très différente.
Exactement.
Le grand face-à-face, le duel.
Ce texte, tel qu'il est aujourd'hui, nous permettra de mettre un frein vraiment à ces géants chinois qui nous envahissent sans aucun contrôle, sans aucune norme, sans payer aucun impôt en France. Et nous souhaitons vraiment préserver ces enseignes qui nous restent, des enseignes qui sont des enseignes accessibles pour l'ensemble des Français, surtout disponibles sur nos territoires. Nous avons vu la perte de Camailleux notamment, et c'est regrettable.
L'invasion chinoise, le péril jaune, version 2025, c'est les produits de la fast fashion, en bon français, la mode jetable. On écoutait ici la sénatrice LR Sylvie Valente-Lehir, rapporteure de ce texte contre la fast fashion qui a été adopté cette semaine par le Sénat. L'idée, c'est de faire reculer cette fast fashion, cette mode jetable. Faisons preuve d'un peu de pédagogie. Cette loi, que dit-elle ? Natacha, est-elle à la hauteur de la catastrophe environnementale et économique et sociale, d'une certaine manière, que cette mode jetable provoquerait ?
Alors, je dirais que cette loi, fait ce qu'elle peut dans un contexte extrêmement compliqué. La loi, concrètement, elle prévoit une éco-participation obligatoire sur chaque vêtement vendu. Le montant varierait selon les règles environnementales. En gros, plus la matière est polluante, plus l'éco-participation augmente. Une taxe sur les petits colis et surtout l'interdiction des retours gratuits, parce qu'en effet, il y a quelque chose justement dans ces... Ce n'est pas seulement les vêtements qui sont jetables, c'est même le mode de consommation qui est un mode de consommation fondé sur l'irresponsabilité. Donc, interdiction de la publicité pour les enseignes à très bas prix et interdiction du recours à des influenceurs. On a vu d'ailleurs la bataille qui avait été la question de la publicité. Le problème, pour poser les choses, c'est que le modèle de Shein, c'est par exemple 7220 nouvelles références par jour. Une autre enseigne, il faut de toute façon en citer plusieurs quand on en cite une, H&M, c'est 290 pour les femmes, 50 pour les hommes. Vous voyez que le rapport, et pourtant on est déjà dans de la mode quasi jetable pour H&M. Donc vous imaginez bien que tout ça a détruit en fait l'industrie textile européenne depuis longtemps. Je ne vais pas vous citer les chiffres. Au bout de 3 mois de suppression par l'Union européenne des tarifs douaniers sur le textile chinois en 2005, 3 mois plus tard, les importations de textiles chinois étaient de 450% pour les chemisiers, 250%
et même avant, pour les accords multifibres.
Voilà. Donc, destruction de l'industrie. Et là, on détruit le commerce.
Voilà, c'est ça l'enjeu.
C'est-à-dire que l'enjeu, c'est qu'en effet, des enseignes comme Jennifer Camailleux, qu'on a vu fermer et qui vident les centres-villes, sont victimes de cela. Est-ce que cette loi va suffire ? Elle est importante. La preuve, c'est le lobbying qu'a déployé Shein pour lutter contre cette loi, notamment en embauchant d'anciens hommes politiques. Je cite un ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. C'est assez effarant.
La question a agacé le président de la République, Emmanuel Macron, sur France 2.
Oui, pourtant la question agace les citoyens qui trouvent que c'est voir un homme politique venir faire du lobbying pour une enseigne qui détruit le commerce et l'industrie en France, c'est assez confondant. Simplement, le mode d'organisation de l'Union européenne fait que des pays en Europe ont intérêt à maintenir ces importations. Donc, une fois qu'on a fait cette loi en France, ça ne suffit pas. Quand vous avez les Pays-Bas, par exemple, qui vivent de ces importations et de leur déferlement ensuite dans le reste de l'Union européenne.
Gilles, ça veut dire que c'est une loi pas mal sur le principe, mais qui ne va pas assez loin, géographiquement et peut-être même dans le champ, des marques retenues.
Moi, je crois que l'expression de Natacha, elle fait ce qu'elle peut, je crois. Et
la loi, elle fait ce qu'elle peut.
Est assez juste. En fait, ça fait 15, 20 ans que l'on parle de fast fashion. Mais ce n'est pas la même fast fashion. J'ai cité plusieurs fois ici, j'avais écrit un livre en 2011 qui s'appelait La dictature de l'urgence, dans lequel j'étudiais notamment l'évolution de la manière dont on s'habillait. Et c'est la première fois que je m'étais plongé dans le modèle Zara qui était la fast fashion de l'époque. Zara, la spécificité de Zara, c'était un renouvellement rapide des collections par rapport à ce qu'on connaissait auparavant, où il y avait la collection d'été et la collection de printemps. Pour faire venir plus souvent les clients dans les magasins, et avec des prix compétitifs et une logistique extraordinaire. Là, 15 ans après, on est avec Shein dans quelque chose de très différent, puisqu'il n'y a plus de magasins, et le consommateur est submergé par des offres quotidiennes. Non seulement il n'y a plus de magasins, mais il n'y a quasiment plus de prix, puisque... On va pas dire que c'est gratuit, mais c'est quand même incroyablement pas cher. Et donc on passe d'une tentation régulière à une submersion permanente. Et il y a un chiffre dans le rapport parlementaire qui m'a frappé, qui illustrait ce changement de modèle. En 2010, vous aviez 2,3 milliards de vêtements en France qui étaient mis sur le marché dans l'année. En 2025... vous en avez 3 milliards 2, c'est-à-dire 900 millions de vêtements supplémentaires, c'est-à-dire 50 vêtements par personne en plus de ce qui existait déjà il y a 15 ans. Donc, je trouve que c'est une très bonne illustration de cette submersion à laquelle nous assistons. Et après, je termine par là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'analyser les arguments qui sont mobilisés par les uns et par les autres. Parce que vous avez l'un et l'autre parlé d'un registre argumentaire qui critiquait, et je crois à raison, le modèle. C'est intéressant de regarder ceux qui défendent Shein. Parce que ce qu'ils mettent en avant, ce ne sont pas les coûts collectifs, ce sont les bénéfices individuels. Et notamment le prix. Et notamment cette idée, c'est là-dessus que s'est d'ailleurs appuyée la campagne de Chine, pourquoi la mode serait réservée aux plus riches, avec l'idée qu'il y a un petit air de gilet jaune derrière ce qui est en train de se passer.
Et démocratique presque.
Voilà, et démocratique, et que l'unanimité politique que l'on a vue, puisque ce texte a été voté à l'unanimité au Sénat, ne se retrouve peut-être pas dans la société. Et puis, d'un autre côté, on voit les coûts collectifs, les coûts économiques, vous les avez évoqués l'un et l'autre, les coûts environnementaux, à la fois en amont, en aval, qui sont absolument considérables. Et donc la question, c'est quel est l'arbitrage que l'on fait entre ces bénéfices individuels et ces coûts collectifs. Et je pense qu'on a raison d'aller dans la direction dans laquelle nous essayons difficilement d'aller, et peut-être trop tardivement.
Natacha.
En un mot, cette rhétorique, en effet, du pouvoir d'achat, qui est exactement l'argumentaire de Chine, mais qui est aussi l'argumentaire de la grande distribution en France, et qui lui permet d'importer des produits, même agricoles, qui viennent d'ailleurs, en faisant croire que cela sert les intérêts des plus pauvres. Cette rhétorique-là est éminemment destructrice. Elle est fondée sur le remplacement du citoyen par le consommateur, sauf que le consommateur, normalement, il doit aussi défendre son emploi et celui de ses voisins.
Le grand face-à-face, le duel.
Je me considère comme un artiste dans ma profession. Si des élèves de CM2 qui ont entre 10 et 11 ans accèdent à cette plateforme, c'est un problème de contrôle parental. Donc je refuse d'endosser une responsabilité qui ne m'appartient pas et être comptable d'un contrôle qui n'est pas à ma portée. Vous faisiez l'objet d'Alexis Chen juste avant. Je suis opposé à ce monsieur. Je ne suis ni sexiste, ni misogyne, ni masculiniste.
Il vient de faire un test, là on a un compte mineur test, il peut accéder au live sans problème. Et vous saurez maintenant que quand vous dites « ça va ma puce, il y a du monde au balcon », ces propos-là, ils sont accessibles à des mineurs.
Échange entre l'influenceur TikTok Adé Laurent, Adrien Laurent, je ne sais pas si vous le connaissiez, Natacha Egil, et Arthur Delaporte, lui vous deviez le connaître, député socialiste, président de la commission de l'Assemblée nationale, qui a auditionné cette semaine des acteurs du secteur pour évaluer les effets psychologiques de la plateforme TikTok sur les mineurs. Natacha, est-ce qu'on prend enfin en compte la dangerosité du réseau social chinois? C'est pas une spéciale Chine, mais après les produits de la fast fashion chinois, là on est sur les réseaux sociaux chinois, TikTok en l'occurrence.
Alors écoutez, en 2023, il y a eu un rapport sénatorial très détaillé, porté par Claude Maluret, qui travaillait sur l'opacité de l'algorithme de TikTok, la mutualisation entre TikTok et la maison mère chinoise, et les risques d'hébergement pour l'hébergement des données, et sur l'influence de TikTok sur les jeunes, et donc les risques à la fois en matière de dépression, d'anorexie, etc. Bref, le travail a déjà été fait en 2023, et le rapport est passionnant, il est extrêmement riche. Alors là, cette commission d'enquête a donné lieu à des échanges parfois grotesques, parfois gênants et à la limite du manque de respect pour la représentation nationale, voire
à la limite.
Quand je dis non, mais c'est un euphémisme, cher Gilles. Voilà. Est-ce que ça servira à autre chose qu'à nous montrer qu'il y a des mondes qui cohabitent mais qui ne se rencontrent jamais, puisque le rapport sénatorial n'a débouché sur rien. Je précise que on a parlé beaucoup cette semaine, et Emmanuel Macron lui-même a parlé de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans.
Oui, dans la foulée loi du drame de la surveillante assassinée par un collégien de 14 ans à Nogent, faisant lui-même le lien, un lien qui n'était pas évident à écouter le procureur, qui explique que le jeune était très peu sur les réseaux sociaux, mais en tout cas c'est à ce moment-là que le président de la République a évoqué cette interdiction potentielle pour les moins de 15 ans.
Oui, et à juste titre, parce que il n'y a pas évidemment de causalité mécanique, mais les réseaux sociaux globalement ont une influence et toutes les recherches en neurosciences le montrent. Simplement, la loi Marcangeli du printemps 2023 interdisait les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Les décrets d'application n'ont jamais été signés, notamment parce que la Commission européenne a expliqué que ça relevait de ses prérogatives. Bref, la parole publique dans ce domaine-là est en permanence décrédibilisée et c'est un problème qui devrait nous préoccuper.
Gilles, cette commission, vous l'avez suivie notamment pour nous. Je ne sais pas si vous aviez prévu d'en suivre les conclusions. Qu'en avez-vous retenu, vous ?
Je pense que comme tous les Français, cette commission a été surtout visible cette semaine ou visible depuis cette semaine avec la série de clashs que l'on a vu, et vous en avez cité un, avec les influenceurs qui ont été auditionnés et qui illustraient deux mondes sans intersection aucune.
Ouais.
Et je trouve de manière plus intéressante un conflit implicite de légitimité entre, d'un côté, une légitimité institutionnelle, élective, représentative, et d'un autre côté, des gens qui considéraient qu'ils avaient la légitimité de la reconnaissance et de l'argent. Et la grande difficulté d'établir une discussion entre, ces deux légitimités-là.
Et du nombre aussi, parce que, en plaisantant, j'ai commencé à dire, vous ne connaissez pas Adé Laurent, mais vous connaissez le député qui lui posait les questions. Le député qui pose des questions, il a été élu par beaucoup moins de monde que ne regarde tous les jours et que ne connaissent Adé Laurent. C'est peut-être là aussi ce conflit de légitimité.
C'était là sur le mot reconnaissance, c'était cette reconnaissance-là à laquelle je faisais allusion. Je me suis donc plongé dans cette commission qui est en train d'achever ses travaux et qui est en réalité très active depuis 3 mois. À la louche, j'ai compté près de 120 personnes qui ont été auditionnées et sur des compétences extrêmement diverses. Et donc, je crois qu'on peut attendre avec intérêt le rapport qui va être rendu. Ça met en lumière du plus large au plus serré. Le plus large, c'est le débat sur la question des écrans dont on avait débattu ici avec Servane Mouton. Dedans, la question des réseaux sociaux. À l'intérieur des réseaux sociaux, la question de TikTok, Natacha l'a évoqué avec le rapport de Claude Maluret, sur lequel je trouve qu'on a même des éléments récents supplémentaires. J'ai été frappé cette semaine d'entendre Hugo Micheron à Quotidien, qui racontait une expérience à laquelle il s'était livré avec ses étudiants. Ils avaient créé 50 comptes sur TikTok, le plus neutre possible, et ils avaient tapé dans la barre de recherche le mot « islam ». La question qu'ils se posaient, c'était au bout de combien de vidéos nous verrons des contenus salafistes absolument incontestables. Moins de 5 vidéos pour les 50 comptes. Donc, on voit à quel point l'algorithme pose un problème. Et là-dedans, il y a la question dans TikTok, dans la question générale de TikTok, la question de la jeunesse, avec, là aussi, je termine par là, 2 chiffres qui m'ont frappé. Les 2/3 des jeunes de moins de 12 ans qui utilisent TikTok, alors que c'est interdit au moins de 13 ans. Et les 4-18 ans qui passent en moyenne près de 2 heures, et les chiffres datent de 2023. Donc on voit à la fois une violation des règles, une addiction des pratiques. Reste la question de la régulation et de ce qu'il est encore possible de faire. C'est une question philosophique assez simple. C'est est-ce que nous étions moins heureux avant TikTok et avant les réseaux sociaux? Est-ce qu'une innovation, c'est toujours un progrès? Est-ce qu'il est possible de revenir en arrière?
Alors, on va poser moins de questions philosophiques, plus de questions géopolitiques dans le débat du Grand Face-à-Face.
France Inter, le Grand Face-à-Face, le débat.
Bonjour Florian Louis.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, historien, professeur en classe préparatoire, membre de la rédaction de l'excellente revue en ligne Le Grand Continent, auteur notamment de 2 livres qui nous intéressent aujourd'hui en particulier, De la géopolitique en Amérique, paru en 2023 aux presses universitaires de France, et L'Atlas historique du Moyen-Orient chez Autrement. Vous êtes aussi un des bons théoriciens des relations internationales et on en a besoin aussi de mettre du sens et des mots sur ce qui est en train de se jouer entre Israël et l'Iran. En ligne avec nous également Denis Charbit, politiste, professeur de sciences politiques à l'Open University de Jérusalem. Bonjour Denis.
Bonjour Thomas.
Il y a un petit écart parce que vous auriez dû être en studio avec nous à la Maison de la Radio, mais vendredi, à l'aube, très tôt, l'avion que vous aviez prévu de prendre pour rejoindre la France a été annulé. L'espace aérien israélien fermé pour plusieurs jours, on vient de l'apprendre encore, la fermeture sera encore plus longue. Une première question peut-être personnelle pour vous, Denis Charbit. Vous êtes géographiquement non loin de Tel Aviv, qui a été frappé par des missiles iraniens qui ont causé des dégâts matériels et humains. Comment est-ce que vous vivez, vous, cette nouvelle crise? Est-ce qu'on s'habitue aux alertes, aux sirènes?
Alors, je dirais que ce qui a changé par rapport à ce que nous avons connu depuis 18 mois, il y a eu souvent des alertes qui ont poussé des millions d'Israéliens à se réfugier dans leur abri, soit intégrés dans leur appartement, soit dans les escaliers, soit même en dehors de leur domicile. C'est qu'en général, ça n'arrivait, je dirais, qu'une fois par nuit ou par jour, et ça durait une dizaine de minutes, et puis ensuite, on recevait un appel téléphonique comme quoi on pouvait sortir de nos abris. Paris. Là, cette nuit, il faut bien le reconnaître, c'est arrivé trois fois, à 1h du matin, à 3h du matin et à 5h30 du matin. Je suis pas précis sur les heures parce que j'ai pas trop dû les regarder, tant il fallait se précipiter et courir. Et pour le coup, il fallait pas attendre 10 minutes, mais bien plus longtemps pour s'assurer que voilà, il y avait pas une nouvelle attaque. Comment on l'a vécu? Écoutez, moi, puisque vous me dites que la question est personnelle, je vais vous répondre personnellement. J'ai organisé un colloque avec des universitaires qui venaient de France et du Canada. Je les ai invités chez moi hier soir à dîner pour passer le Shabbat ensemble. Ben, on s'est retrouvés 7 ou 8 dans un petit abri. C'était un peu difficile, mais en même temps, voilà, ils ont une expérience de ce que vivent les Israéliens. Et je dirais encore une fois, une nouvelle donne, puisque c'est pas simplement une fois dans la nuit, mais trois fois. Et on est tous un peu sur le qui-vive, se dire combien de temps cela va durer. Et on sait que ça va durer.
Alors j'aimerais vous proposer, Denis Charbit, d'écouter le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. C'était vendredi, juste après les frappes israéliennes, il a pris la parole pour son peuple.
Il y a quelques instants, Israël a lancé l'opération Rising Lion, une opération militaire ciblée visant à repousser la menace iranienne pesant sur la survie même d'Israël. Cette opération continuera autant de jours que nécessaire pour éliminer cette menace. L'État juif refuse d'être la victime d'un holocauste nucléaire commis par le régime iranien. Nous avons frappé au cœur du programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Nous avons frappé le cœur du programme nucléaire militaire de l'Iran. Nous avons ciblé la principale installation d'enrichissement de l'Iran à Natanz. Nous n'avons pas d'autre choix que d'agir, et d'agir maintenant.
Alors on va revenir notamment avec Florian Louis et vous sur le fondement même de la justification de l'attaque israélienne sur l'Iran, l'état du programme nucléaire iranien et l'état de la menace pour Israël. Mais d'abord Denis Charbit, comment est-ce que vous avez entendu, vous, cette nouvelle référence à l'Holocauste dans la bouche du Premier ministre israélien?
Écoutez, je suis de ceux qui, depuis des années, se font l'avocat d'un moratoire sur l'utilisation de toute référence à la Shoah lorsqu'il s'agit du conflit israélo-palestinien. Tous les Palestiniens ne sont pas des nazis et les Israéliens ne sont pas des nazis et il faut arrêter une fois pour toutes. Mais je me rends bien compte que dans le discours politique, ça reste, c'est pertinent, c'est prévalent. Et je dirais, dans le cas de l'Iran, je dirais que c'est peut-être la seule exception où, dans la mesure où l'Iran régulièrement menace d'Israël de l'effacement. Alors il dit pas qu'il le fera par l'arme nucléaire, mais il menace régulièrement dans les discours d'effacer Israël de la carte. Alors je dirais que là, il y a peut-être quelque chose qui s'en rapproche, encore que l'Iran n'a toujours pas déclaré qu'elle détenait une arme nucléaire. Mais voilà, de manière générale, je trouve que l'usage de ces métaphores autorise le pire, et donc je n'adhère pas à ce type de comparaison d'un côté comme de l'autre.
Florian Louis, en studio ici avec nous à Paris, l'attaque d'Israël est une attaque préventive. L'Iran n'avait pas attaqué Israël. Quelle est la place que la guerre préventive a dans la théorie des relations internationales? Est-ce que ça existe, la guerre préventive?
Alors ça existe dans les discours de ceux qui l'engagent. Par contre, effectivement, c'est un concept très polémique et assez insaisissable, puisque par définition, une guerre préventive vise à empêcher l'adversaire de faire quelque chose. Et dans l'hypothèse où cette guerre réussit, on ne pourra jamais prouver qu'il l'aurait faite, cette chose. Et dans l'hypothèse où elle échoue, même s'il fait cette chose, il pourra dire qu'il l'a fait parce qu'on l'a attaqué le premier. Donc c'est une notion extrêmement insaisissable. Mais c'est une notion qui est au cœur, notamment de la politique israélienne, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est le cœur de l'analyse géopolitique, qu'Israël, c'est un petit pays par sa superficie, et donc c'est un pays qui a de bonnes raisons, pour le coup, de se sentir fragile face à une offensive. Il ne peut pas, comme, c'est un peu tarte à la crème de le dire, mais la Russie, par exemple, voilà, permettre de jouer sur l'enlisement d'une armée d'envahisseurs qui finirait par s'étouffer eux-mêmes en s'enfonçant dans les immensités russes. En Israël, on sait que si l'adversaire pénètre sur le territoire, comme ça s'est produit d'ailleurs le 7 octobre, comme ça s'était produit aussi lors de la guerre du Kippour, ça peut aller très vite et tourner très mal, parce que l'adversaire peut être très vite à Tel Aviv, à Jérusalem, et occuper tout le territoire. Donc, historiquement, les Israéliens ont, face à cela, eu deux attitudes stratégiques. La première, c'est justement passer à l'offensive avant que l'adversaire ne le fasse, c'est ce qui s'est passé lors de la guerre des six jours en 67, avec le risque évidemment d'être accusé d'être passé à l'offensive sur une menace qui n'était pas concrétisée et réelle. Et la deuxième stratégie qu'ont eu les Israéliens pour gérer cette étroitesse territoriale et le danger qu'elle représentait pour eux, ça a été à chaque victoire militaire, il y en a eu beaucoup, d'en profiter pour s'accroître territorialement, pas seulement dans des territoires comme la Cisjordanie où certains d'entre eux ont des velléités réelles d'expansion et d'acquisition et d'annexion, mais dans des territoires comme le Sinaï qui avait été pris à l'Égypte, dans le but de s'en servir à la fois comme une monnaie d'échange dans des discussions, mais aussi comme un espace tampon qui permet justement d'encaisser un éventuel choc pénétrant d'une offensive adverse.
Je m'appuie sur les propos de Florian Louis pour revenir vers vous, Denis Charbit. Est-ce que la société israélienne, que vous connaissez par cœur pour y vivre, elle est préparée depuis des années à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, l'attaque préventive de l'Iran ?
Oui, dans la mesure où Netanyahou n'a jamais dissimulé que la question du nucléaire iranien était son idée fixe, son obsession.
On va revenir vers vous dans...
Allez-y. Et ce n'est pas que sur la Cisjordanie, la réalité est comme là. Oui, donc il n'a pas d'velléité d'expansion. Mais je dirais que là, il est dans la continuité de Menachem dans la continuité.
Alors, on vous entend pas bien, Denis.
Shamir, dans la continuité d'Ariel Sharon.
On vous entend pas très bien, Denis. Je pense que la situation géopolitique explique aussi la difficulté de la liaison avec vous. Je reviens donc vers Florian Louis. Dans ce que commençait à évoquer Denis Charbit, il y avait quand même un sentiment de la société israélienne d'un danger. Que sait-on? Mais concrètement, réellement, pragmatiquement, de l'état d'avancée du programme nucléaire iranien aujourd'hui.
Alors, on en sait quand même un petit peu, parce que même si, depuis la rupture de l'accord qui avait été conclu en 2015, qui était rompu en 2008, les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont plus difficiles, il y en a quand même, il y a des experts de l'AIEA qui peuvent rendre des rapports précis, il y en a un qui a été rendu très récemment et qui était plutôt alarmiste, qui a sans doute contribué d'ailleurs à la prise de décision de Benjamin Netanyahou, d'ailleurs peut-être pas parce qu'en lisant le rapport, il a pris peur, il a dit il faut intervenir vite, mais sans doute parce qu'il s'est dit ce rapport, c'est l'opportunité de justifier justement comme préventive une attaque qu'il avait sans doute sous le coude depuis fort longtemps, c'est ce que commençait à rappeler fort justement Denis Charbit.
Et qu'on va retrouver bientôt. Allez-y.
Donc, ce qu'on sait actuellement, c'est qu'effectivement, l'Iran continue d'enrichir de l'uranium qui permet, selon lui, de développer une énergie nucléaire civile, mais que les taux d'enrichissement qu'il pratique ne sont justement pas compatibles avec une production civile, ni même scientifique, qu'ils ne peuvent avoir qu'une finalité militaire. Donc, même si l'Iran a toujours nié et continue de nier avoir l'intention de se doter d'une arme nucléaire, ce que disent les experts, de l'AIEA notamment, c'est qu'elle en a les moyens assez rapidement. Alors, il faut juste préciser une chose, c'est qu'avoir une bombe nucléaire, c'est une chose. Pour l'utiliser, il faut ensuite être capable, bien sûr, de la projeter sur une cible, et ça, c'est beaucoup plus compliqué, notamment si cette cible est Israël, qui est éloignée géographiquement bien sûr de l'Iran, et qui dispose quand même de systèmes d'interception pour ce type d'armes assez efficaces, même si évidemment le risque zéro est loin d'exister, on l'a vu cette nuit. Et donc, il y a la possibilité, pour ce que nous disent les experts, en quelques jours, quelques semaines, de développer une arme nucléaire. Par contre, pour être capable de la mettre sur un vecteur, c'est-à-dire un missile, puisque les avions, ils en ont quasiment pas, en tout cas pas capable d'aller jusqu'en Israël, ça prendrait sans doute environ un an, nous disent les experts, ce qui est à la fois beaucoup, mais évidemment très peu.
Très peu quand il s'agit d'un risque existentiel pour une nation souveraine comme Israël. Denis Charbit, on vous a retrouvé à Tel Aviv. Vous commenciez à évoquer l'état de préparation presque psychologique de la société israélienne après des années de discours alarmiste sur le nucléaire iranien.
Oui, tout à fait. Alors, des discours, mais aussi des intentions qui, finalement, ne se sont pas concrétisées. À deux reprises, on était sur le point de mener une opération, mais l'information a quand même circulé. Et je dirais aussi que, même par rapport au conflit qu'on mène depuis le 7 octobre 2023, tout le monde a toujours considéré, bien sûr, le Hamas doit être éliminé, bien sûr que le Hezbollah doit être marginalisé, mais les outils également. Mais celui qui est à l'origine de tout cela, même si les mouvements respectifs ont une certaine authenticité, ils représentent une certaine population et ils ont leur idéologie propre, je ne veux pas réduire leur autonomie et relative par rapport à l'Iran, mais on comprend bien que au départ de toute cette équation stratégique hostile à Israël, nous avons l'Iran. Et comme elle a, et là je dirais c'est ça qui à mon avis explique le fait que l'opération a été déclarée. D'abord Netanyahou, pour qui c'était la seule chance aujourd'hui de la faire, autrement c'était terminé. Il ne sait pas s'il gagnera les élections l'année prochaine. Deuxièmement, Trump, imprévisible, qui dans sa première présidence, nous sommes près d'un accord. Le signal qui a été donné par le Hezbollah, on avait surestimé la force, et quelque part on s'est dit que si le Hezbollah n'est pas aussi fort qu'on croit, il est vraisemblable que c'est également le cas pour l'Iran. Alors on n'est pas à la fin de toute cette opération, mais il est vrai qu'entre l'offensive israélienne et la riposte iranienne, reste très prudent, on voit bien que l'équation est totalement asymétrique.
On a compris l'essentiel. Florian Louis, est-ce que ça veut dire que, comme le commençait à le suggérer Denis Charbit, c'est la même guerre depuis le 7 octobre? Ou est-ce que ce sont deux conflits différents? Il y a eu la guerre à Gaza, il y a désormais la guerre contre l'Iran. Ou est-ce que c'est le même conflit?
C'est globalement le même conflit. Je pense qu'on peut parler aujourd'hui d'une guerre, effectivement, irano-israélienne, mais qu'elle n'a sans doute pas commencé avant-hier. Elle a sans doute commencé au moins le 7 octobre, et même sans doute bien avant. C'est, comme toutes les guerres actuelles, une guerre hybride qui passe, effectivement, par ce qu'on appelle des proxys, des relais d'influence. Et on voit bien que Israël s'est attaqué une à une, aux pièces de ce puzzle, et avec chaque fois un sens de l'anticipation de l'étape d'après. Par exemple, la dernière étape avant aujourd'hui, enfin avant les événements de ces derniers jours, c'était la chute de Bachar el-Assad, dans laquelle Israël n'était pas impliqué. Mais immédiatement, qu'a fait Israël? Ils sont allés bombarder les systèmes de défense et de radars aériens syriens, en prévision du jour où ils attaqueraient l'Iran, pour ne pas justement que les avions israéliens qui quittaient Israël en direction de l'Iran soient détectés par un éventuel pouvoir syrien qui pourrait être ami avec le régime iranien et qui lui transmettrait des informations. Donc on voit bien que tout ça, évidemment, comme dans tous les états-majors, tout est planifié longtemps à l'avance, y compris les choses qui ne se feront pas. Mais donc effectivement, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui et comment ça se passe si on ne l'inscrit pas dans un temps beaucoup plus long.
Gilles.
La question que je me pose et que je vous pose à l'un et à l'autre, c'est est-ce que cette offensive israélienne, il n'y a pas une évidence que nous n'avons pas voulu voir? J'en avais un peu l'intuition parce que je me souviens qu'à chaque fois qu'on a discuté aussi bien de Gaza que du Liban avec Natacha, on évoquait toujours la question iranienne et j'en ai eu la révélation en lisant cette semaine, donc deux jours avant l'offensive, un rapport que la Fondation Jean Jaurès a publié en partenariat avec le principal think tank israélien sur les questions de sécurité et de défense, écrit par l'ancien directeur du renseignement militaire israélien, qui évoque les différents scénarios avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et l'impression qu'on a en lisant ça, c'est qu'il y avait à la fois, du côté israélien, le sentiment d'une menace. Non pas que c'est la même guerre, mais que d'une certaine manière, c'est la vraie guerre. Que le sujet n'était pas...
Ce que disait Denis de Charbit il y a un instant.
Oui, et que le vrai sujet, depuis le début, et d'ailleurs même... c'était ça, qu'il devenait de plus en plus aigu, et qu'il y avait une opportunité, en raison de l'affaiblissement stratégique de l'Iran, et même une opportunité dans l'opportunité, avec le fait que y ait le rapport il y a quelques jours, et la fin de l'ultimatum de Donald Trump. Donc, est-ce que c'est une surprise ou est-ce que c'était inéluctable?
Peut-être Denis Charbit, d'abord avec en sous-texte la question, Netanyahou dit c'est le moment le plus important de l'histoire d'Israël et du peuple juif, ça renvoie un peu à ce que disait Gilles sur l'idée que c'est la guerre des guerres, la guerre la plus importante qu'on n'osait pas imaginer, qu'on ne voulait pas voir, mais qui devait à un moment donné survenir. Denis.
Tout à fait. C'est ainsi qu'on considère. C'est la guerre qu'on ne voulait pas voir, qu'on redoutait, à cause de la riposte éventuelle de l'Iran. Encore une fois, on n'est pas à la fin de l'épisode. On n'en est qu'à la fin du premier. La série pourrait être longue. On a quand même le sentiment que, encore une fois, l'Iran était plutôt un tigre de papier. C'est sans doute aussi les effets des sanctions. Mais il est vrai qu'on a le sentiment que si demain l'Iran s'effondre, et le régime de Mollah en particulier, même si ce n'est pas l'objectif déclaré de l'opération israélienne d'aujourd'hui, alors c'est un nouveau Moyen-Orient pour le coup qui peut émerger et avec des potentialités qu'on n'aurait pas pu imaginer si l'Iran reste toujours au cœur de cet échiquier.
Florian Louis, l'Iran tigre de papier, est-ce que c'est une expression que vous reprendriez dans votre bouche? Est-ce qu'on ne minore pas la puissance iranienne? Téhéran a quand même réussi à frapper Israël au cœur depuis quelques heures.
Oui, on peut dire tigre de papier dans le sens où il y a un grand déséquilibre entre les deux. Il y a un discours très grandiloquent de menace et derrière, ça ne suit pas tout à fait. Par contre, je pense qu'il faut quand même se méfier et c'est pourquoi moi, j'étais plutôt sceptique quant à l'hypothèse que ce qu'on est en train de voir se produirait et j'attends de voir la suite. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que cette offensive atteigne son objectif parce que certes, Israël fait une démonstration de force, montre qu'on peut survoler et bombarder l'Iran sans problème, mais de là à
tuer des scientifiques,
etc. Mais de là à stopper le programme nucléaire, ou à le retarder sensiblement, on verra ce qui va se passer. Pour l'instant, on n'a aucune idée concrète des résultats. Et certains pensent que l'effet pourrait même être inverse, évidemment, parce que si jamais ces frappes qui vont sans doute continuer, et on peut penser que justement là, ils ont dégagé le terrain pour pouvoir taper encore plus fort et plus en profondeur sur le programme nucléaire, mais si jamais ça ne fonctionnait pas, alors évidemment, le régime iranien pourrait se dire que c'est le moment ou jamais, c'est la preuve lui aussi, c'est finalement une opportunité, une aubaine. Il peut franchir le seuil de l'armement nucléaire pour établir justement une dissuasion qui serait à même, dans son espoir, d'empêcher Israël de continuer, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des questions de vecteur, la dissuasion serait encore loin d'être égale.
Mais même si ce n'est pas l'objectif principal, est-ce que le meilleur moyen pour Israël de garantir sa sécurité, ce n'est pas le changement de régime ?
Ça peut être, mais le changement de régime, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça se termine. Renverser un régime, on l'a vu ces dernières années.
Nombreuses fois.
Écraser militairement un pays, on l'a vu en Afghanistan par exemple. Oui. Les talibans étaient là quand les Américains sont arrivés et quelques autres avec eux, et ils sont là aujourd'hui. Mm. Donc c'est pour ça que j'appelle quand même à se méfier de ce déséquilibre de force qui est réel. Mais la force militaire, ça ne fait pas tout. Changement de régime, peut-être, mais pour avoir quoi à la place ? Il est évident aussi que de toute façon, une agression militaire comme celle-ci ne va pas souder toute la population derrière le régime. Mais malgré tout, quand vous êtes un Iranien, vous voyez des bombes qui tombent à côté de chez vous, ça ne doit pas non plus susciter en vous une immense amitié pour Israël, sauf si vous êtes vraiment, ce qui existe, un opposant au régime. Donc s'emballer, je pense, et prendre les rêves pour des réalités.
Et on a même vu des jeunes militants du mouvement Femmes, Vie, Liberté mettre en avant des images de jeunes tués iraniens appartenant à ce mouvement, montrant la complexité de la situation pour eux en ce moment. Natacha.
Oui, je prolonge ce que vous disiez à l'instant, Florian Louis, c'est-à-dire cette question de savoir quelle est la part de prophétie autoréalisatrice dans la politique menée par Israël, puisque on a vu en 2018 Netanyahou déjà pousser Donald Trump à sortir de l'accord iranien à un moment où les Iraniens semblaient malgré tout respecter un peu les barrières qui leur étaient données. Et depuis ce moment-là, en effet, tout n'a-t-il pas été fait pour convaincre le régime iranien qu'il avait tout intérêt à se doter de la bombe dans la mesure où la tension montait. Et j'ajoute une chose, dans ce jeu dangereux qui est mené, on peut avoir l'impression parfois de revoir, d'entendre la même rhétorique qui était celle notamment des États-Unis vis-à-vis du régime de Saddam Hussein. Donc, quelle est la part de prophétie autoréalisatrice, premier point. Quelle est la part de destruction irréversible du droit international dans la pratique de cette fameuse guerre préventive, et quelle est la difficulté, ces derniers points, pour un pays comme la France, quand on voit Emmanuel Macron prendre position et parler du droit d'Israël à se défendre. On peut noter que la Grande-Bretagne, le Canada, l'Espagne, l'Italie, la Pologne ont appelé à la désescalade, mais n'ont pas soutenu officiellement Israël.
Florian Louis.
Il est clair que la réaction française a pu paraître un peu surprenante parce que cette expression « Israël a le droit à se défendre », ça va de soi, sauf qu'effectivement sur cette attaque-là, c'est plutôt Israël qui a attaqué et elle s'est défendue ou les Israéliens se sont défendus contre une menace virtuelle, même si on l'a dit c'est un virtuel qui est près du réel, même s'il faut aussi développer, parce qu'on parle de la réaction présidentielle, mais j'ai souvenir, vous en souvenez peut-être, qu'en 2007, Jacques Chirac avait commis une bévue en off avec des journalistes en disant, on négociait déjà le nucléaire iranien à l'époque, en disant, mais finalement, si les Iraniens ont l'arme nucléaire, qu'est-ce que ça va faire ? Est-ce que il n'avait pas dit ça comme ça, mais bon, en gros, c'est la dissuasion fera que, justement, ça va geler le conflit, et n'en faisons pas toute une histoire. Bon, il avait rétro-pédalé ensuite, mais donc, on voit effectivement que ce qui se passe, c'est que chacun est effectivement tétanisé par cette perspective d'un Iran nucléaire, et en même temps, chacun s'interroge sur qu'est-ce que ça changerait, parce qu'il faut aussi poser la question, finalement, qu'est-ce que ça changerait ? Est-ce que le risque, c'est une frappe nucléaire iranienne sur Israël ? C'est pas impossible. On sait qu'il y a, dans ce pays comme dans d'autres, il ne s'agit pas de stigmatiser l'Iran ou les Iraniens, mais des gens qui sont des fanatiques religieux, donc pour qui le principe de la dissuasion, du respect de la vie humaine, etc., peut être sujet à caution. D'un autre côté, ce sont quand même aussi des gens qui sont censés avoir une part de rationalité, donc qui sont censés être sensibles aussi à la dissuasion. Donc il y a vraiment effectivement une grande complexité et surtout la difficulté à trouver des alternatives. Je terminerai là-dessus, mais effectivement, on parlait de changement de régime. On voit très bien ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, finalement. finalement renverser le Hamas, ce qui n'était pas évident, mais ils y sont parvenus, ils l'ont écrasé. Et puis aujourd'hui, ils ne savent pas quoi faire, il n'y a personne à qui mettre à la place, de toute façon, ce n'est pas à eux de le faire. Et donc, ils se trouvent dans une impasse, embourbés dans une guerre sans fin et sans but. Et donc, le vrai problème, c'est pour Israël, j'entends en tout cas, hein, et pour ses alliés, c'est de, pas seulement la capacité de détruire, ça ils l'ont, mais la capacité de construire et de construire sur la durée, parce que sinon, tout cela recommencera dans 5, dans 10 ou dans 15 ans.
Denis Charbit, vous avez évoqué, vous êtes toujours avec nous depuis Tel Aviv, vous avez évoqué à plusieurs reprises avec nous l'idée que ce conflit durerait, selon vous, longtemps. Pourquoi dites-vous cela ?
Je dis cela parce que, et c'est là, je dirais, la faiblesse intrinsèque d'Israël, et pas simplement du gouvernement actuel, même des précédents. Ils remportent toujours des victoires tactiques et se montrent incapables, stratégiquement, de les transformer à leur avantage. Concernant Gaza, la question n'était pas seulement d'éliminer le Hamas, mais de remplacer le Hamas. Mais quand le gouvernement décide qu'en aucun cas l'autorité palestinienne, fût-elle renforcée, fût-elle composée de technocrates, ne pourra remplacer le Hamas, alors c'est vrai que d'une certaine manière, on dit qu'il n'y a que les Israéliens qui peuvent assurer leur sécurité dans la bande de Gaza. Et je dirais que, alors pour l'Iran, c'est un peu plus compliqué parce que là, il y a une autre situation. Là, la situation, c'est qu'on part d'un monopole israélien en matière nucléaire, même si Israël, comme on le sait, ne déclare pas qu'il possède l'arme nucléaire. Mais le résultat, c'est que la conséquence de ce monopole, c'est qu'il ne veut pas d'un duopole. Et j'ajouterais, à plus forte raison, si ce duopole, donc le fait qu'une autre puissance déclare posséder l'arme nucléaire, n'est pas une démocratie, n'est pas même un régime autoritaire, mais une république islamique dans laquelle on ne sait pas si demain ne l'emporteront pas les fanatiques et les illuminés sur les rationnels, dont je ne doute pas qu'ils existent au sein de la république islamique, mais dont on ne sait jamais quel est le rapport de force entre les deux. Et donc, dans cette situation-là, effectivement, les Israéliens sont à peu près tous derrière le gouvernement et derrière la décision, parce qu'on comprenait bien que c'est peut-être ça qui bloque l'émergence d'un nouveau Moyen-Orient. Mais je partage complètement avec Florian Louis le fait qu'on ne peut pas décréter aujourd'hui, même après cette première phase, on va dire victorieuse, mais ce n'est qu'une première phase, que cela va transformer effectivement l'Iran, cela va conduire l'Iran, ne serait-ce qu'à reprendre les négociations avec Donald Trump. Ça paraît un peu difficile à établir ou à en émettre l'hypothèse aujourd'hui.
On va ouvrir le dossier américain avec Florian Louis qui connaît bien la géopolitique américaine, mais encore une question, Denis Charbit, est-ce qu'aujourd'hui les Israéliens se sentent plus en sécurité que le 8 octobre par exemple ?
Oui, sans doute, parce que là, ils ont pris l'offensive. Hein. Là, ils ont pris l'initiative et même s'il y a bien sûr une riposte inéluctable, d'une part, elle est moins puissante que celle que l'on redoutait. Oui. Et donc, à cet égard... et puis, c'est toujours autre chose. Je dirais, le narcissisme israélien a tellement été fragilisé, ébranlé le 7 octobre, que là, la première démonstration consistant à éliminer tous les responsables scientifiques du programme nucléaire, des autorités militaires, le chef de gardien de la révolution, c'est vrai que ça rassure les Israéliens sur cette capacité technologique, même s'il faut bien comprendre que cette capacité technologique ne vaut plus grand-chose s'il n'y a pas derrière une vision politique. Et là, on est effectivement beaucoup plus divisé en Israël, parce qu'on a le sentiment que ce gouvernement suit des objectifs qui ne vont pas de pair avec cette rationalité politique dont on parlait tout à l'heure.
Détruire et construire. Gilles.
Oui, une question pour Florian Louis sur le grand tableau géopolitique et les réagencements ou pas que cela va provoquer. Est-ce qu'on a le sentiment d'être un peu dans un moment d'hésitation? On l'a vu sur les États-Unis qui à la fois ne veulent pas porter la responsabilité mais ne veulent pas se désolidariser. Les Russes qui ont été aidés notamment avec les drones par les Iraniens mais qui ont d'autres chats à fouetter si je puis dire, et l'Arabie Saoudite dont on a l'impression qu'elle joue, et c'est la question que je vous pose, un double jeu, reprenant un peu cette formule qu'avait utilisée un député bonapartiste au début de la Troisième République après l'augmentation des indemnités parlementaires qui était montée à la tribune et qui avait dit « mon indignation n'a d'égal que ma satisfaction ». Est-ce qu'il y a une indignation vocale et une satisfaction in petto?
Il y a surtout, si je commence par les Saoudiens, un chat échaudé, pour poursuivre la métaphore qui va bien avec l'Iran en plus, qui craint la répétition de ce qui s'est passé par le passé, c'est-à-dire que quand, par le passé, ils ont été attaqués par les Iraniens ou par les Houthis, enfin, par les Iraniens ou indirectement par les Iraniens, les États-Unis de Donald Trump, le même, n'étaient pas venus à leur secours. Et ils sont aujourd'hui conscients, justement, qu'ils doivent éviter un face-à-face trop frontal avec les Iraniens. Les Iraniens, c'est ce qui permet de garder un peu d'espoir sur les jours à venir. Eux sont bien conscients qu'ils n'ont justement pas intérêt à élargir le conflit avec les États-Unis, mais pas non plus avec les Saoudiens ou avec qui que ce soit d'autre. Ils ont déjà fort à faire avec les Israéliens. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, beaucoup de pays sont dans l'attentisme. Et ce qui est surprenant, effectivement, c'est que même les États-Unis semblent un peu donner cette impression avec des discours contradictoires de Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui commence par dire « Oh là, on a rien à voir avec ça ».
C'est unilatéral.
Voilà, visiblement dans le but tout à fait compréhensible et normal de protéger les intérêts, les soldats et les civils américains qui se trouvent dans la région, d'envoyer le message « Nous, on n'a rien à voir avec ça, donc surtout pas de représailles sur nous ». Et dans un deuxième temps, Donald Trump, qui nous explique en gros que c'est pas lui, mais que c'était un peu lui quand même. Ouais. Enfin, en gros, il voit que ça tourne dans le bon sens de son point de vue, et donc il essaie de retrouver ça en négligeant, évidemment, il va pas le faire, mais je vais le faire à sa place, de rappeler qu'il est très largement responsable, lui et Netanyahou, de la situation dans laquelle on est, puisqu'un accord sur le nucléaire avec l'Iran avait été trouvé, un accord qui, comme tous les accords diplomatiques, était imparfait, mais qui a vécu 3 ans, pendant lesquels l'Iran s'est conformé, d'après les inspecteurs de l'AIEA, aux obligations qui étaient les siennes, c'est-à-dire de ne pas produire d'uranium trop enrichi qui pouvait servir à autre chose que du nucléaire civil. Or, les deux hommes qui ont œuvré à faire capoter, à faire échouer et finalement à faire disparaître cet accord, c'est Netanyahou d'un côté, c'est Trump de l'autre. Donc, ils sont très largement quand même à l'origine de la situation dans laquelle on est, et ils seront tenus comptables, ils sont d'ores et déjà tenus comptables de ce qui se passe, notamment en termes de victimes civiles dans ces affrontements, mais ils seront tenus comptables par leur propre opinion publique du résultat final. Si effectivement, au terme de cette guerre, l'Iran connaît un changement de régime et devient le meilleur ami d'Israël, ce qui n'est pas impossible, ça a été le cas par le passé, enfin peut-être pas le meilleur ami, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans de là, ou un peu plus maintenant, l'Iran et Israël étaient deux amis, deux pays alliés et alliés aux États-Unis. Bon, si effectivement ça se passe comme ça, Netanyahou et Trump pourront dire on était des génies en déchirant l'accord sur le nucléaire iranien. Si ça ne se passe pas comme ça, ils devront, entre guillemets, rendre des comptes.
Natacha.
Je prolonge ce que vous dites, parce qu'en effet, on a l'impression d'avoir un Benjamin Netanyahou qui tord le bras à l'ensemble de ses alliés et qui le fait, disons, en embarquant tout le monde dans une politique dont le moins qu'on puisse dire est que ces dernières années, elle a prouvé sa dangerosité, que ce soit vis-à-vis de l'Irak, vis-à-vis de la Libye, et à peu près à chaque fois que ce genre de rhétorique sur le changement de régime a été employé, parce que de fait, c'est bien ça qu'il emploie actuellement. Donc, quels sont les moyens dont disposent actuellement les différents pays occidentaux, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, et comment faire en sorte de ne pas se retrouver devant le fait accompli de la part d'un dirigeant israélien qui joue sa survie politique, qui s'appuie sur une proportionnelle intégrale qui lui donne des moyens d'agir de façon absurde sous la pression d'une extrême droite israélienne, et comment préserver la paix du monde qui est mise en danger par cette absurdité politique et électorale.
Florian Louis.
Alors, les pays occidentaux n'ont pas tous, loin s'en faut, les mêmes cartes en main. Ceux qui ont vraiment des cartes en main, ce sont les États-Unis. Et ça va être très intéressant de voir comment ils vont les utiliser, ces cartes, puisque, pour résumer très simplement, à l'heure qu'il est, j'imagine que c'est les discussions qui doivent avoir lieu entre Trump et Netanyahou, il y a 2 solutions. Soit, enfin, il y en a même 3. Soit les États-Unis, peu probable à ce stade, arrêtent de livrer des armes à Israël pour empêcher Israël de poursuivre sur un temps long son offensive en Iran, c'est peu probable. Soit ils continuent de fournir les armes actuelles, ce qui est le plus probable. Soit c'est la 3e étape qui serait intéressante, ils fournissent ces fameuses bombes anti-bunker très puissantes, qu'ils sont les seuls à avoir, qui permettraient de toucher en profondeur les installations nucléaires qui sont installées dans des sites très protégés. Et donc, effectivement, peut-être que Donald Trump peut se dire, tiens, cette opération commence pas mal, j'ai laissé Netanyahou faire sa tentative, et tout en prenant mes précautions, ça semble fonctionner, ben, c'est le moment, effectivement, d'autant plus qu'il est, il faut savoir lui-même comment il perçoit la négociation diplomatique qui était en cours avec les Iraniens, mais s'il estime qu'elle a échoué et que la voie diplomatique a échoué, il pourrait être tenté de délivrer ses armes aux Israéliens et peut-être, parce que même avec ses armes, c'est pas dit que ça fonctionnera, mais effectivement, d'aller plus loin dans le soutien. Mais effectivement, là, pour le coup, il s'exposerait aussi à des représailles iraniennes et de tous ses proxys contre les intérêts américains, même si, une fois de plus, les Iraniens doivent quand même, je pense, bien réfléchir avant de s'attaquer à des intérêts américains. Ils ont déjà suffisamment à faire avec les Israéliens.
Denis Charby, toujours en direct de Tel Aviv avec nous. Est-ce que dans cet affrontement entre Téhéran et Tel Aviv, Est-ce qu'il n'y a pas une victime collatérale qui est la population civile gazaouie ?
Elle est, indépendamment du problème de la confrontation avec l'Iran. Je dirais que même à la limite, le fait qu'aujourd'hui toute l'attention de l'armée de l'air soit portée sur Téhéran fait qu'il n'y a plus de bombardements actuels sur la bande de Gaza. Donc de ce point de vue-là, cette opération permet un petit peu de soulager très temporairement, très provisoirement les Gazaouis. Mais pour répondre à la question sur l'impact de l'Europe et de la France, la reconnaissance éventuellement d'un État de Palestine était un moyen pour la France de dire on soutient Israël parce que contre le Hamas il n'est pas question de faire un autre choix, mais on ne le soutient pas dans ses objectifs s'il vise à éliminer la question palestinienne. Pour la question iranienne, ce sera plus compliqué, cela dépendra du résultat de l'opération. En fonction des résultats, en fonction des conséquences, les pays européens devront se positionner, mais il est vrai que compte tenu du fait qu'il y a violation du droit international, puisqu'il y a eu agression, le discours européen est nécessairement, inévitablement contradictoire.
Contradictoire et complexe comme la situation de ce Moyen-Orient, cet Orient incertain. Titre d'un de vos livres, Florian Louis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Denis Charbit également d'avoir été en ligne depuis Tel Aviv. Merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face. Mathilde Clat à la préparation de l'émission. Marie Merrier à sa réalisation. Aujourd'hui, Sofiane Aktib était à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France.